Sans doute manquez-vous de deniers, dit encore Longwy.
Oui, maître.
Longwy tira 2 pièces d'argent de sa bougette. Évrard lui baissa la main et partit en boitant sous la pluie. Comme il traversait la bannière de France, il entendit dans une allée des cris et des rires. Une femme, largement dépoitraillée et abritant ses cheveux rouges sous sa jupe retroussée, courait entre 2 tentes, poursuivie par des soldats goguenards. Sur l'arrière d'un chariot bâché, une autre ribaude aguichait la pratique. Évrard s'arrêta, la hanche de travers, et demeura immobile un moment, attentif à son propre émoi. Les occasions de sacrifier au désir de la chair étaient rares. Ce qui le faisait hésiter, c'était moins d'employer à pareille fin l'obol de Maître Jean que le peu de temps écoulé entre le don et l'usage. Bah, il mendierait pour poursuivre sa route. Le pain s'obtient de la charité plus fréquemment que le plaisir. Il se dirigea vers le chariot aux ribaudes. Tout auprès se dressait une haute tente rouge brodée de 3 châteaux d'Artois, mais sur laquelle flottait la bannière de Conches. Le campement de Robert d'Artois ne ressemblait en rien à celui du comte de Poitiers. De ce côté-là, en dépit de la pluie, ce n'était que mouvement, agitation, rumeur, allées et venues dans un désordre si général qu'il paraissait voulu. Le lieu donnait l'image d'un marché en plein vent plus que d'une place de guerre. Des relents de cuir mouillé, de vin suri, de purin, d'excréments offensaient un peu le nez. D'Artois avait loué aux marchands qui accompagnaient l'armée une partie des champs affectés à sa bannière. Qui souhaitait acheter un baudrier neuf, remplacer la boucle de son aume, se procurer des protège-coups en fer ou simplement lamper un gobelet de cervoise ou de piquette, devait venir là. Le désœuvrement chez le soldat favorise la dépense. On tenait foire devant la portière de Messire Robert, qui s'était arrangé pour attirer également dans son coin les filles folieuses, si bien qu'il en pouvait faire libéralité à ses amis. Quant aux archers, arbalétriers, palefreniers, valets d'armes et goujats, ils avaient été repoussés et s'abritaient sous des feuillets qu'ils avaient construites ou bien sous les chariots. À l'intérieur de la tente rouge, on ne parlait guère poésie. Un tonneau de vin y était constamment en perse. Les cruches circulaient au milieu du vacarme, les dés roulaient sur le couvercle des coffres. L'argent se jouait sur parole et plus d'un chevalier avait déjà perdu ce qui lui aurait coûté sa rançon en bataille. Alors que Robert ne commandait qu'aux troupes de Conches et de Beaumont-le-Roger, un grand nombre de chevaliers d'Artois qui dépendaient de la bannière de la comtesse Mao se trouvaient en permanence chez lui, où ils n'avaient, militairement parlant, rien à faire. Adossé au mât central, Robert d'Artois dominait de sa taille colossale toute cette turbulence. Le nez bref, les joues plus larges que le front et ses cheveux de lion rejetés en arrière sur sa côte écarlate, il jonglait négligemment avec une masse d'armes. Pourtant, il y avait une fêlure dans l'âme du géant, et ce n'était pas sans motif qu'il désirait s'étourdir de boissons et de bruit.
« Oh mien, les batailles de Flandre ne valent guère » confiait-il au seigneur qui l'entourait. « Mon père, le comte Philippe, que beaucoup de vous ont bien connu et fidèlement servi. « Oui, nous l'avons connu, c'était un preux homme, un vaillant !» répondaient les barons d'Artois. « Mon père fut blessé à mort au combat de Furne. » « C'est dans son trèfle que nous sommes, » disait Robert en accompagnant ses mots d'un large geste circulaire. « Et mon grand-père, le comte Robert ! Ah, le brave, le bon suzerain que c'était ! Respectant nos bonnes coutumes, jamais en vain on ne lui demandait justice ! 4 années après, le voilà raide, navré à Courtrai ! Jamais les deux ne s'en vont sans le troisième, demain peut-être mes seigneurs, vous me porterez en terre !»
Il est 2 sortes de superstitieux. Ceux qui n'évoquent jamais le malheur de peur de l'attirer et ceux qui espèrent le détourner en lui accordant un tribut de parole. Robert d'Artois était de la seconde espèce.
« Comment ? Verse-moi un autre gobelet et buvons à mon dernier jour » cria-t-il. « Nous ne voulons point. Nous vous ferons rempart de notre corps, » répondirent les chevaliers artésiens. « Qui donc, hormis vous, défend nos droits ?»
Ils le considéraient comme leur suzerain naturel et l'idolâtraient un peu pour sa taille, sa force, son appétit, ses largesses. Tous rêvaient de lui ressembler, tous s'appliquaient à l'imiter.
Or, voyez mes bons seigneurs, comment on est récompensé de tant versé pour le royaume, reprit-il. Parce que mon grand-père est mort après mon père, oui, pour cela, le roi Philippe en a pris occasion pour me faire tort de mon héritage et de donner l'Artois à ma tante Mao. Qui vous traite si bien avec l'aide de tous ces hirsons, le chancelier, le trésorier et tous les autres, qui vous écrasent de redevances et vous refusent vos droits. Si nous allons demain en bataille, et qu'un hirson se trouve à portée de malon, je lui promets quelques coups qui ne viendra pas forcément des flamands !»
déclara un gaillard au gros sourcil roux qui s'appelait le sire de Soistre. Robert d'Artois, en dépit de ce qu'il buvait, gardait la tête claire. Tout ce vin distribué, les filles offertes, et tant d'argent dépensé avaient leur raison. Le géant travaillait à avancer ses affaires.
« Mes nobles sires, mes nobles sires !» dit-il. « D'abord la guerre du roi, dont nous sommes les loyaux sujets, et qui, pour l'heure, je vous l'assure, est tout acquis à vos justes doléances. Mais une fois la guerre achevée, alors, mes seigneurs, je vous donne conseil de ne point vous désarmer. C'est une bonne occasion que vous avez là d'être en troupe avec vos gens réunis. Rentrez ainsi en Artois et parcourez le pays pour chasser les agents de Mao et les fesser au cul sur la place des Bourgs. Et moi, je vous appuierai à la chambre du roi et reprendrai, s'il le faut, mon procès en appel du jugement qui m'a lésé. Et je m'engage à restaurer vos coutumes, comme elles étaient au temps de mes pères. Ainsi ferons-nous, messire Robert, ainsi ferons-nous. »
Soistre ouvrit les bras.
« Jurons, s'écria-t-il, de ne point nous séparer avant qu'il n'ait été fait droit à nos requêtes et que notre bon sire Robert ne nous ait été rendu pour être notre comte. Nous le jurons, répondirent les barons.
Il y eut forces embrassades et encore de grandes rasades versées, et l'on alluma les flambeaux parce que le jour baissait.